Nous allons parler simplement aujourd'hui du jugement dernier. Donc, le fait même que Dieu dise au monde entier ce qui s'est passé pendant des siècles. Le jugement dernier s'évalue par rapport au jugement particulier. Le jugement particulier dont j'avais déjà parlé, c'est le fait de, au moment de notre mort, l'âme sort du corps et voit Jésus. Et Jésus nous juge. Suivant la tradition, il y a un Saint-Michel Archange est présent et intervient pour le jugement particulier. Ensuite, notre ange gardien est probablement présent. Si nous avons connu et aimé la Vierge Marie, ou si même on ne l'a pas connue, mais si une âme d'une personne dans l'ignorance invincible de tous les détails de la vraie religion a été une personne extrêmement fidèle ou qui s'est, après avoir été dans le péché ou même avoir s'est converti ou a lutté contre ses péchés d'une manière particulière, peut-être que la Vierge Marie sera là aussi, même pour quelqu'un qui n'était pas baptisé parce que il a toujours prié et suivi la voie de sa conscience et s'est battu pour faire le bien. Donc la Vierge Marie peut très bien être présente à un jugement particulier de quelqu'un qui n'était pas chrétien. Un homme ou une femme, un enfant. Et donc, Jésus, à ce moment-là, nous juge. Et nous-mêmes, lorsque notre âme sort de notre corps, nous n'usons plus de notre corps pour susciter et porter notre imagination et notre langage appris, langue maternelle et autres langues. Ce n'est plus, on n'a plus l'aide du cerveau. C'est ce qui est dans l'âme, maintenant s'épanouit totalement. On use du cerveau pour une utilisation de notre imagination et de nos jugements et de nos constats et de notre mémoire. Mais quand on est mort, on n'utilise plus notre cerveau qui pourrit dans notre tête. Vous voyez ? Et donc, on ne l'utilise plus du tout. Il n'est plus utilisable du tout. Vous voyez ? Par contre, tout reste dans l'âme. Image et mémoire. Oui.
Même les choses qu'on a oubliées.
Oui, et d'autant plus les choses qu'on a oubliées. Parce que les choses qu'on a oubliées, c'est souvent à cause du cerveau, justement à cause du corps qu'on les oublie. Parce qu'il y a des images qui ne sont plus suscitées par un cerveau malade. Vous voyez ? Mais quand vous n'usez plus du cerveau pour votre activité d'intelligence et de volonté, comme un instrument, eh bien, vous en êtes totalement libre. Alors, est-ce la raison pour laquelle certains disent qu'on voit défiler toute notre vie lorsqu'on a une crainte de mort ? Ça. En tout cas, au moment de notre mort, toute notre vie vient à notre mémoire en une seule pensée, en un seul regard. Donc on peut voir tout ce qu'on a fait. Et on peut même retrouver les images et les sensations qu'on a eues même dans le ventre de notre mère et bébé. Parce qu'on enregistre tout, nous. Mais les animaux aussi ont une mémoire qui va dans leur âme, mais leur âme n'est pas immortelle. On considère que l'âme des animaux est réduite à la puissance de la matière. Notre âme, elle est faite pour survivre à la mort du corps. Enfin, elle peut survivre à la mort du corps. elle a des actes abstraits de la matière, en dehors de la matière, au-dessus de la matière. Et donc, on voit tout le bien qu'on a fait, on voit tout le mal qu'on a fait, on voit tout le mal qu'on a regretté, et on est devant Dieu. Et on n'est pas devant Vishnu, on n'est pas devant Mahomet, on n'est pas devant... on est devant Jésus, tout le monde. On n'est pas devant l'esprit des forêts, on n'est pas devant... Il n'y a que Jésus, là. Alors imaginez tous ceux qui, les Incas, les Aztèques et autres, eh bien, ils sont devant Jésus-Christ. Alors vous allez me dire, mais avant l'incarnation, ils mouraient comment ? Alors ils mouraient tout naturellement et ils étaient jugés par Dieu immédiatement. Alors est-ce qu'ils se présentaient comme Jésus alors qu'il n'était pas encore incarné ? Ben, je dirais non. Mais ils se présentaient devant la Sainte Trinité. Mais comme dit Jésus à l'apôtre Philippe, qui me voit le Père. Et donc, quand on voit Jésus, on voit le Père et l'Esprit Saint. Parce que Jésus, c'est l'œuvre de la Sainte Trinité. C'est l'amour du Père qui fait l'incarnation. C'est l'amour, l'amour de Dieu, l'Esprit Saint qui fait l'incarnation. Quand Saint Gabriel dit à la Vierge Marie, ne t'inquiète pas, ça ne sera pas corporel, ça ne sera pas physiologique, ça respectera notre aspiration supérieure. Voyez, je le disais dans mon fervorino de ce soir, nous avons toutes les nécessités et les instincts des animaux, mais nous sommes bien supérieurs aux animaux. On ne supporte pas notre odeur, on se lave, on mange, je prends toujours les mêmes images, mais on ne se goinfre pas comme un lionceau qui met son nez dans les entrailles de la gazelle. Non. Et qui sort avec le nez tout rouge. Et il n'a pas honte. Sa maman, déjà, elle a pris le gigot, donc voilà. Et donc, voilà. Mais si vous commencez à manger un poulet en vous en mettant jusqu'aux oreilles, on vous dira, tiens, c'est curieux. Et quand on voit justement les rites funéraires, ben on voit des plats, on est sur des milliers d'années. Donc les gens mangeaient dans des plats. Alors on va vous dire, mais maintenant ils prenaient des feuilles pour certaines tribus, tout ça. Oui, enfin, on mange pas dans nos mains, on mange pas... On n'a jamais vu un animal avoir un plat. Mais si, il y a des animaux, ils cassent une coquille et tout ça. Vous voyez, c'est de l'instinct. Un instinct parfois qui est très fin, hein, mais c'est un instinct quand même. Et donc, notre aspiration est quand même à une vie spirituelle. Ce qui fait que la Vierge Marie... L'archange Gabriel lui dit que c'est l'Esprit Saint qui la couvrira de son ombre pour concevoir l'enfant, mais qui a été conçu d'un ovule de la Vierge Marie, avec modification créatrice de Dieu pour que ça soit un garçon. Comme aussi vous avez des personnes qui ont des cancers et Dieu détruit les cellules pour les guérir totalement. Ou alors des personnes qui sont paralysées, comme une sclérose en plaques, Dieu détruit les cellules. C'est une action d'anéantissement. Alors, donc, le jugement particulier, notre âme est dégagée du corps, elle a toute sa vie en une pensée, et on est devant Jésus. Et donc, Dieu suscite en nous le constat de notre vie, qu'on fait tout seul comme des grands. Et c'est avant la mort que on fait le constat de notre vie. Avant de perdre connaissance. Pour mourir. Vous voyez ? Alors vous allez me dire, quand on est dans le coma, ou quand on a peu de pensée. Vincent Lambert, vu qu'il tourne un tout petit peu la tête, qu'il a les yeux ouverts, à mon avis, il entend et il voit tout ce qui se passe autour de lui. Ça, c'est mon avis. Avis conforté par des témoignages impressionnants de personnes qui étaient dans le coma avec les yeux fermés et qui entendaient tout, en dehors des moments où ils dormaient. Et il y a une femme comme ça, pour une larme, et on l'a réveillée, on a usé de moyens plus puissants pour la réveiller parce que lors d'un examen clinique, le professeur a dit, voyez, c'est une plante. Et même elle réagit plus. Et donc il a pris le bout du sein et il l'a tordu. Voyez ? Eh bien, figurez-vous que médicalement, ça doit être très intéressant à étudier. Donc, en effet, elle ne réagissait pas, mais elle ressentait la douleur. Ce qui est très curieux. Et donc, elle a eu un mal de chien, et il y a une goutte, elle a pleuré. Et donc, un des étudiants a dit, mais elle pleure. Donc, peut-être que, hop, alors du coup, ils l'ont stimulée de manière particulière, et elle est sortie de son coma. Et donc, le jugement particulier, c'est l'abandon de notre corps. On est jugé à l'endroit où l'on meurt. Vous voyez ? Alors, quand un avion explose, vous allez me dire, alors, on est jugé dans le ciel. Ben oui, le corps, il tombe, et puis notre âme est jugée. Immédiatement. On meurt sur Terre, on meurt sous l'eau, on est jugé au moment où l'âme sort du corps. C'est tout. Immédiatement. Et donc les différentes hérésies qui disent que si l'âme conclut sa vie en disant « Je ne veux vivre que pour moi, je n'aime ni mes parents, ni mes frères et sœurs, ni mon prochain, ni Dieu, ni vous, ni toi, Dieu. Je ne t'aime pas. Je me fous de toi, mais complètement. » Et là, étant donné que vous êtes sorti de votre corps, que vous êtes face à Dieu, vous ne le dites pas non plus d'une manière très, très insolente. Vous voyez ? Mais vous le pensez. Et là, Jésus vous dit et constate dans un jugement, toi, tu ne m'aimes pas. Toi, tu ne veux pas vivre avec moi. Toi, tu veux, être privé de ma présence. Et maintenant, que tu en sois privé. Et là, pour le coup, c'est une condamnation. C'est vrai. Mais voyez-vous, Dieu ne va pas annihiler l'âme qui ne veut pas aimer, et Dieu ne va pas, faire peur à une personne qui n'a pas encore choisi. Ce qui fait qu'il y a deux hérésies en ce moment, une que j'ai découverte il y a quelques mois seulement, n'est-ce pas ? C'est Dieu annihile l'âme parce qu'elle voudrait aller en enfer, mais l'enfer n'existe pas, parce que c'est très tellement méchant d'être en enfer. Vous rendez compte ? Première peine de l'enfer, haïr, la haine, alors que notre nature est faite pour aimer et être en paix. Donc c'est une souffrance terrible. Mais la deuxième souffrance physique, même des prêtres conservateurs disent « Oh, c'est une image. » Non, 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 non. « Oh, on est brûlé par la haine. » Non, 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 non. Non, 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 non. C'est tout. On est brûlé vif. Alors l'âme, au contact avec du feu, elle a eu l'habitude du contact avec de la matière, avec un corps. Donc regardez, quand, vous voyez, moi je sens mon ongle gratter ma peau. Ça va dans les nerfs, ça va au cerveau, et puis le cerveau l'envoie à l'âme. Vous voyez ? Donc j'ai l'habitude que la matière m'envoie des signaux. Hein ? Et ben, hop. Vous voyez ? Donc là, oh, ça commence à... Hein ? Hein ? Ben, je suis un sens... Ah, si, ah oui. Donc voilà. Eh bien, sans corps, l'âme va pouvoir se mettre en connexion avec de la matière en combustion. Voilà, c'est clair. Voilà. Et donc, à ce moment-là, on va en enfer. Alors, si on choisit d'aimer et qu'on est désolé, et alors qu'est-ce que je fais? Alors là, Jésus nous dit très gentiment, tu n'as pas tout fait. Tu as fait l'essentiel, mais quand même, tu aurais pu être bien plus aimable, tu aurais pu restaurer des liens, des amis, de l'amitié, de l'amour. Donc tu vas le regretter et tu vas réparer ce temps perdu. C'est ce qu'on appelle le purgatoire. Ce purgatoire s'arrête lorsque vous avez bien réfléchi sur le temps perdu. Vous voyez, pas assez aimé, pas assez pardonné, pas assez regretté le mal que vous avez fait. Donc le purgatoire est temporaire, puisque vous aimez Dieu. Et les âmes du purgatoire ont une douleur de ne pas voir encore Dieu, mais parce qu'ils l'aiment. Et ils ont la douleur du feu aussi. Et traditionnellement, c'est le même feu qu'en enfer. Mais avec des atténuations suivant le moment où on va sortir du purgatoire. Une âme était apparue à Sainte Faustine, une ancienne religieuse qui lui demandait de prier pour elle, et ensuite qui lui réapparaît en disant « Tu n'as pas assez prié, tu ne pries pas assez pour moi. » Et alors elle a intensifié ses prières pour cette religieuse, et elle lui est réapparue avec un visage moins douloureux, plus apaisé, en lui disant qu'elle allait partir du purgatoire, de cet état d'âme du purgatoire. Alors, et ceux qui sont au ciel sont ceux qui, après le purgatoire, eh bien, entrent dans la vision de Dieu. Ou alors, au moment même de leur mort, Jésus leur dit, tu as tout donné, alors viens. Voilà. Donc, vous mourrez et vous allez directement au ciel. Et Sainte Scolastique, qui n'est pas morte martyre, qui n'est pas connue pour être une sainte qui faisait des miracles, ou beaucoup de miracles, eh bien, Saint Benoît a vu son âme partir vers le ciel comme une colombe partir vers le ciel. Voyez. Donc, il était à quelques kilomètres, et il voit une colombe sortir du couvent de sa sœur, et voler vers le ciel, jusqu'à disparaître. Saint Grégoire le Grand, célébrant la 30e messe, la 30e messe d'un moine dont on avait rangé sa chambre après sa mort et on avait trouvé des pièces d'or cousues dans son matelas, dans sa paillasse, au cas où. Voilà. Donc on s'est inquiété pour son salut. Hein, on s'est dit, voilà, il n'était pas totalement abandonné à la Providence, au cas où, vous voyez. Et donc, et il a célébré des messes pour lui. Vous voyez, on n'a pas balancé son corps dans le ruisseau à côté. Il était gentil. Hein. Une époque un peu dure, hein, dans les années Saint Grégoire le Grand, je crois que c'est les années 600. Donc, les bénédictins. Eh bien non, ils ont célébré la messe pour lui. Et à la 30e messe, il a vu un globe monter. Il a vu un globe apparaître. Et monter, quoi, vers le ciel, qu'on a considéré comme l'âme du moine. Vous voyez, et c'est pour ça que, par coutume, on fait célébrer des trentains, c'est-à-dire 30 messes de suite, pour le repos de l'âme d'un défunt. Alors, c'est une martingale pour les prêtres et les moines, prêtres, parce que 30 offrandes, vous voyez, offerte d'un coup, à tempérament, on peut toujours s'arranger. Si vous voulez, des personnes peuvent demander un trentain sans donner 30 offrandes. En fait, vous donnez une offrande de messe, c'est un jour de vie d'un prêtre. Sa nourriture, en soi son logement. Vous participez aux dépenses du diocèse pour faire vivre ce prêtre et pour le nourrir. Actuellement, c'est évalué à 17 euros. Et comme je le dis souvent, c'était avant plutôt un panier du curé. Et ceux qui donnent le panier du curé devraient demander une messe à chaque fois. Et toc. Là, est-ce que vous pourriez me célébrer la messe puisque je vous nourris? Eh oui. En fait, l'offrande de messe, c'est parce que autrefois, puisqu'on aidait l'Église, on permettait aux prêtres d'être vivants et en bonne santé, on lui disait, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Et le prêtre, il dit, mais bien volontiers. À ma prochaine messe que je célébrerai, je prendrai vos intentions avec moi. Oui. Voilà. C'est ça l'offrande de messe. Hein. Alors des personnes modestes, pouvaient donner ce qu'elles voulaient. De nos jours, vous pouvez, les 17 euros sont toujours indicatifs. En soi, vous pouvez donner 5 euros, mais si vous, toutes les semaines, vous arrivez en disant je voudrais une intention de messe et vous donnez 5 euros, 5 euros, 5 euros, on va tousser. Pourquoi? Mais parce que le monde est gouverné par l'argent actuellement. Alors, pourquoi le bon Dieu voudrait que tous ces jugements particuliers soient rendus publics à la fin des temps? C'est même curieux. D'abord, je le lis. Après la résurrection des morts, aura lieu à la fin du monde le jugement général. C'est un dogme. C'est certain. Ça, c'est pas une considération de théologien. C'est certain. Le symbole des apôtres, le « je crois en Dieu », le petit « je crois en Dieu », contient déjà cette proposition de foi. Il désigne ce jugement comme le but de la venue du Seigneur. Il reviendra pour juger les vivants et les morts. Les autres symboles, c'est-à-dire résumés, symbole, ça veut dire résumé, expriment également cette foi. Les vivants et les morts équivaut à tous les hommes. Les morts, ce sont ceux qui sont morts avant que Jésus revienne. Et les vivants, ce sont ceux qui auront la joie de voir le feu du ciel descendre et être cramé à ce moment-là. Avec tous ceux qui sont dans les bunkers à 10 km, 20 km sous terre, qui seront cuits comme dans un micro-ondes. Ah non, ça ne protège pas. Ben non, ça ne protège pas. Parce que c'est une décision divine. Tout le monde meurt. Allez, rassemblement. L'expression provient de la foi chrétienne primitive, d'après laquelle, au moment de la parousie, quelques-uns seront déjà morts, d'autres vivront encore. C'est sûr. Au moment où Jésus va venir, il y aura des vivants. Même s'il y aura eu le grand châtiment, même s'il y aura eu la troisième guerre mondiale, et comme dit Einstein, s'il y a une troisième guerre mondiale, il n'y aura pas grand monde pour voir la quatrième. Voilà. Et il a bien raison. D'ailleurs, à ce propos, en matière de fin des temps, je ne peux pas ne pas vous lire ce qu'a écrit, un évêque. Voilà. Je vais vous lire ce qu'a écrit cet évêque. Alors, attendez. Non, c'est pas ça. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien chers fidèles, tous les pays d'Occident, la France en particulier, et bien d'autres pays du monde sont au bord de révolutions brutales, dont les conséquences seront désastreuses pour des décennies. Ou très positives, si on sait les anticiper, et régler intelligemment, à l'avance, les contradictions qu'elles traduiseraient. Une révolution, je ne parle pas ici de révolution scientifique, artistique, intellectuelle, toujours bienvenue, ça ne doit pas être un évêque catholique, ça, mais de révolution politique, Ce qui déclenche toujours, quand un régime ne sait plus assurer à ceux qu'il prétend servir le bien-être auquel ils estiment avoir droit, et quand il ne fait plus assez peur pour se maintenir par la force. Alors, les révoltes deviennent des révolutions. Ces révolutions commencent par inspirer des espoirs fous, dérapant souvent ensuite dans des dérives sanglantes, entraînant des contre-révolutions plus sanglantes encore, jusqu'à ce que, des années ou des décennies plus tard, les ambitions de la révolution initiale soient retrouvées et ses idéaux servis dans un contexte raisonnable et équilibré. Rares sont les peuples qui ont réussi à faire l'économie de la révolution et de la contre-révolution pour en arriver directement au régime le plus réaliste, conciliant le souhaitable et le possible. Doctrine sociale de l'Église catholique, ça présente un peu, si vous voulez, le moment de l'antéchrist, de la fin des temps, du retour du Christ. C'est très intéressant. Très théologique, en tout cas. Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour que se déclenche un jour prochain, dans plusieurs pays, des révolutions d'une extrême violence. Dis donc, si je dis ça en chair, la vache. Vous vous rendez compte, cette phrase? Elle est impressionnante, elle est religieuse, elle est prophétique. Les régimes en place semblent en effet incapables de résoudre les difficultés, les frustrations, réelles ou ressenties, d'un grand nombre de citoyens. Un travail absent, non rémunérateur ou aliénant. Des services publics délabrés. Des territoires ruraux oubliés, une agriculture en plein désarroi, un environnement dégradé, ça c'est la flûte écologique, mais une précarité croissante, des vies personnelles en miettes. On serait presque d'accord. Ces régimes, se sentant menacés, se crispent et accordent de plus en plus de privilèges aux classes dominantes et à leurs enfants, rendant plus fous de colère encore ceux qui en sont exclus. C'est pas tout à fait vrai, c'était vrai avant, mais maintenant... Quand ces colères ne sont que celles des plus pauvres, soumis et faibles, rien ne se passe. Quand elles atteignent, comme aujourd'hui, les classes moyennes, et quand celles-ci en déduisent qu'elles n'ont plus rien à perdre, la révolution devient possible. C'est vraiment le thème de ce soir, hein, c'est le jugement général, hein, le jugement de la fin des temps, le retour du Christ. Bon. Que faire? Alors, comment il conclut son homélie? On voit très bien la forme qu'elle pourra prendre bientôt en France et dans d'autres pays d'Occident. Les peuples ne se contenteront plus du dégagisme léger qui a conduit à remplacer une classe politique discréditée par une autre qui se prétendait nouvelle, mais qui n'était en fait qu'un autre avatar de la précédente et qui n'a pas mieux réussi. C'est dur. Il n'est pas macronien, hein. Mais vous allez voir. Les peuples se révolteront contre tous ceux qui sont pensés comme ayant du pouvoir dans les entreprises et les cités, et en particulier dans les villes capitales des pays. Ils s'abandonneront alors à des chefs autoritaires sortis des rangs du peuple, ou à des pseudo-stars populistes mêlant le simulacre au réel, avec promesse d'accorder à tous les privilèges anciennement réservé aux élites, et de protéger les peuples des menaces du monde, mêlant ce qui s'est déjà annoncé en Italie, en Ukraine, pourtant c'est lui qui l'a fait, et en Hongrie, On peut être sceptique et refuser de penser que de telles révolutions soient possibles. Mon intuition est que tout se met en place pour qu'elles le deviennent. Très bientôt, les révoltes, les colères, les manifestations d'aujourd'hui ne sont que des substituts, elles en sont des signes précurseurs. Comme à chaque révolution de ce genre, ceux des puissants d'aujourd'hui qui échapperont aux foudres des nouveaux dirigeants émigreront en jet jusqu'à New York. En attendant que ces révolutions échouent, ce qui ne manquera pas d'arriver après un temps plus ou moins long. La contre-révolution sera encore une fois terrible, d'autant plus terrible que les privilégiés auront eu peur et qu'ils auront perdu des leurs et des biens dans la révolution. Même si on n'apprend jamais rien de l'histoire, on pourrait faire l'économie de ces désastres annoncés, en organisant la nation comme elle le sera, quoi qu'il arrive, après les ravages de la révolution et de la contre-révolution. Une nation beaucoup plus juste, beaucoup plus empathique, ouverte au monde, capable de penser aux intérêts des générations suivantes. Un gouvernement mondial fleuri, où tous les Vincent Lambert seront exécutés, afin d'avoir plus d'argent pour les autres. Non. Pour y parvenir, il faudrait que les arrogantes élites d'aujourd'hui veuillent bien laisser une part importante du pouvoir à ceux qui en sont le plus privés. Et alors, ça termine en eau de boudin. Excusez-moi, mesdames, la solution du mage, en particulier aux femmes issues des territoires fragiles de la République. De la campagne, celles qui sont dans les ronds-points des gilets jaunes, et des quartiers, celles qui n'ont jamais manifesté. Elles portent mieux que personne l'espoir de l'avenir, sans violence, sans concession. Signé Monseigneur Jacques Attali. Vous vous rendez compte que c'est lui qui a mis Emmanuel Macron au pouvoir. Vous me direz, je fais de la politique ? Non, c'est totalement religieux comme texte. C'est religieux comme un mafieux qui a une statue de la Vierge dans son jardin et qui va voir un boulanger pour lui dire, ou un restaurant, on va dire, une pizzeria, qui va lui dire, mais si vous n'acceptez pas ma protection et mon monde merveilleux, où je coordonne toutes les pizzerias de la ville. Je vais brûler votre pizzeria. Vous allez manifester contre moi. Vous allez peut-être même envoyer vos enfants. J'essaierai de tuer votre femme et tout. Peut-être que vous allez vous allez vous révolter, que vous viendrez brûler ma villa avec la Vierge Marie dans un coin du jardin. Mais finalement, avec mes cousins, on reviendra, on brûlera à nouveau votre pizzeria et on vous tuera, on gagnera. Voilà. C'est exactement ce qu'il fait. Il dit, vous devez livrer tous vos pouvoirs à nous. Bon, la marionnette qu'on a mis ne marche pas. Mais on savait de toute façon peut-être qu'elle ne marcherait pas. De toute façon, on veut vous menacer. Acceptez notre pouvoir. Et là, il critique les élites dont il est lui-même. Enfin, franchement, quelle hypocrisie. Eh bien, voyez-vous, c'est une des causes du jugement dernier. Jésus va, à la fin des temps, non seulement révéler toutes vos vies privées, pour manifester sa miséricorde, les damnés auront peut-être honte, mais surtout de ne pas avoir aimé, et ceux qui sont sauvés de voir tous leurs péchés particuliers connus, seront fiers d'avoir été pardonnés et d'être au ciel. Donc nos péchés personnels, même connus de tous, ne nous blesseront pas. Parce qu'on sera d'abord à la fin des temps, au jugement dernier, au seuil de l'éternité, et nos péchés passés seront tellement petits dans leur coin de notre mémoire. Mais Dieu veut le manifester. Manifester sa miséricorde, manifester que dans chaque vie, il a été patient, dans chaque vie, il a été bon, dans chaque vie, il a été juste. C'est peut-être pas très intéressant pour des vies ordinaires, avec nos hauts et nos bas, mais pour des grands criminels ou pour des chefs d'État, que pour satisfaire notre curiosité historique, ben oui, un peu. Tous les faits, toutes les guerres, toutes les décisions, tous les traités, le commerce, tout sera dévoilé. Tous les vols, toutes les escroqueries, toutes les concurrences déloyales, les dumpings, tous les Chinois seront tous là. On dit, oui, c'est vrai, on a vendu à perte pour avoir vos marchés. Mais oui, mais ça a provoqué des suicides. Mais tout, on va tout savoir, ça va être vraiment le 20h, mais avec un super journaliste, Jésus. Donc dans le genre vérité, ça va être cru. Et alors vous allez me dire, mais ça va durer combien de temps? Comment ça va se passer? Eh ben, vous allez voir.